Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Si tu te poses trop de questions, effectivement, tu auras 1700 raisons de ne pas y aller et 4 d'y aller. Donc moi, je préfère mettre les 4 raisons d'y aller en premier et ensuite voir ce qui n'a pas marché et faire en sorte que je ne me pose pas les questions après, justement.
Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des passionnés qui choisissent leur vie.
Mon rêve absolu, c'est une espèce de créer un rapport de confiance. Il y a un côté artisanal total que je revendique absolument.
N'oubliez pas de vous abonner à Nouvelle École sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast. C'est ce qui m'aide le plus et bonne écoute.
En fait, tu fais une psychanalyse gratos, mon...
Ouais, enfin gratos, il y a un peu de boulot derrière.
Non, non, gratos, nous on t'offre la psychanalyse.
Ah oui, grave.
C'est l'inverse, je veux dire, tu sais, normalement quand tu fais des interviews, de temps en temps ça sonne un peu comme des psychanalyses d'artistes. Là, si je comprends bien ta démarche, c'est nous qui t'écoutons, quoi, qui t'amenons à la réflexion. Quoi.
Ouais, c'est un peu les deux, en fait. Je demande aussi parfois, enfin beaucoup, enfin je me nourris beaucoup de des trucs des autres, quoi. Bon,
t'as quel âge ?
J'ai 26 ans.
Ah ouais.
Pourquoi ?
Bah rien, t'es jeune.
Ah ouais, bah tu trouves.
Parce qu'en fait... Je trouve, moi j'ai 43, donc évidemment.
Ouais, mais en fait, si tu veux, moi il y a un truc que je me dis, c'est... j'ai fait quoi, 6 ans d'études, un truc comme ça ? Et en plus, je regardais, tu sais, j'ai pas mal préparé l'interview, donc je regardais ton parcours et tout, tu vois. Tu sais, c'est à 20 ans, t'as rencontré Daft Punk et tu pars bosser avec eux alors que t'étais en fac de droit, tu vois. Et moi, je me dis, bah ouais, c'est là que j'ai commencé les études, tu vois. Il y a tout un pan de 5-6 ans où je me dis, bon, bah cool, mais enfin, c'est plus ça que je veux faire, tu vois. Donc il y a vraiment un côté où je me dis, limite, j'aurais peut-être mieux fait de faire mes trucs dès le départ, tu vois.
Ouais, après, c'est un. Bon, déjà, c'est une rencontre assez exceptionnelle, mais c'est juste... moi, au début, je voulais faire des études. Hein, et après, j'ai appris mon métier sur le tard, comme on dit. Et c'est... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, ou bonne ou mauvaise école, d'ailleurs, hein, finalement. Mais c'est vrai qu'avec le recul, c'est un choix qui a été validé par mes parents. Donc, je big up ma mère... de m'avoir laissé, tu te rends compte quand même, bah, la nouvelle, bah ouais, c'est pas anodin quand même de rentrer chez soi un soir. Bon, j'étais déjà chez moi, moi j'avais déjà quitté la maison et donc je m'occupais de moi-même, mais effectivement c'est un choix qui est pas évident à faire, de se dire tiens, je lâche les études pour apprendre la vie, quoi.
Pourquoi tu crois qu'elle a validé ton choix? C'était confiance dans les gars de Daft Punk, dans toi, dans...
Bon, elle les connaissait pas, donc non, c'était plus une confiance, je pense, en moi. Et moi, je viens d'un milieu, ma mère, moi, travaillait pour RTL à l'époque. Donc, je l'ai, inconsciemment, je pense que j'ai voulu aussi, moi, à ma façon, faire quoi, aller dans le milieu dans lequel elle était, organiser des événements, rencontrer des gens, être... derrière le décor. Moi, c'était surtout ça, ce qui me fascinait, je me souviens, parce que moi, elle m'emmenait voir plein de concerts, des concerts sponsors RTL. Donc, ça allait de Johnny Hallyday à Michael Jackson. C'était assez impressionnant et cool, finalement. Et pas que ça, d'ailleurs. Monsters of Rock, Metallica, un concert assez incroyable.
T'as vu Metallica en concert sponsor RTL?
Ouais, c'était cool. Monsters of Rock, qui était le plus grand festival européen de heavy metal à la fin des années 80. C'était à Vincennes. Et bref, tout ça pour dire qu'effectivement, j'allais voir plein de concerts quand j'étais petit, et l'envers du décor me fascinait, quoi.
Et il y a un truc qui est marrant, c'est que, en fait, on remarque qu'à chaque fois, t'as appris sur le tas, parce que finalement, au départ, t'avais commencé des études de droit. Mais en fait, à partir du moment où t'as commencé à bosser avec Daft Punk, ensuite, c'était parti, t'as tout appris sur le tas, tu vois. Et ça fait, moi, ce que ça me fait me dire, c'est parfois, tu sais, je te parlais de mes études. Est-ce que finalement, on a besoin de faire ces études-là pendant des années, alors que peut-être que tout le monde peut trouver un peu une manière de commencer direct à faire un truc sur le tas? Tu vois, tout le monde peut pas rencontrer Daft Punk, tu vois. Mais peut-être que tu connais des gens qui font un truc qui t'intéresse et que tu peux les aider ou te mettre au service de ce qu'ils font.
Alors, je pense que, encore une fois, il n'y a pas une méthode mieux que l'autre. Chacun a son profil, chacun a son parcours, et chacun écrit son histoire aussi. Donc, il faut pas généraliser. Il faut tout plaquer et se lancer dès 20 ans. Évidemment que les études sont utiles. Maintenant, aujourd'hui, ce qui est génial, et la chance, en tout cas, grâce à la nouvelle technologie, au réseau et tout ça, c'est que je pense que les deux sont pas incompatibles. C'est-à-dire que moi, effectivement, dans les années 90, j'ai dû faire un choix. Peut-être qu'aujourd'hui, dans les années 2010, ce choix, il est plus facile, parce que tu peux la journée être à l'université, puis le soir, ton laptop sur les genoux, et composer, aider les autres, faire des milliards de trucs, échanger, communiquer. Donc je pense qu'il y a cette révolution technologique va peut-être faciliter les gens à s'exprimer et à créer, quoi. Deux secondes, est-ce que eux on les entend, si il faut que je leur dise
non ça va, au pire ça fait un bruit de fond, mais c'est
là-haut.
Pas trop.
Et les amis, sachez que je suis en bas avec des micros, donc pas de musique s'il vous plaît, et si vous communiquez un peu moins fort que d'habitude. Merci les gars. Que j'entende pas un bruit là-haut.
Ce sera laissé dans l'interview.
Le Thénardier. Et est-ce que mes poufs, on les entend là quand...
Non, mais moi je suis bien. Non, mais en fait, on n'entend pas grand. Quand les gens parlent dans les micros, on entend bien, tu vois. C'est...
T'as vu, je me soucie du son. Hein. Je me soucie de.
Ouais, t'es un professionnel.
Je suis un professionnel.
T'avais pas. Quand t'as commencé comme ça, donc tu t'es lancé avec eux, à aucun moment t'as douté, tu t'es dit, attends, peut-être que je fais une connerie.
Non, je crois pas. J'ai pas le souvenir. J'ai évidemment dû me poser un tas de questions. Mais
t'es du genre à te poser des questions ou pas?
Non. Non, moi je suis pas du genre à me poser de questions. Justement, je fais les choses de façon très instinctive. Avec plus ou moins de réussite. Il y a plein de fois, tu rates ton truc. C'est peut-être lié aussi à mon adolescence dans le skateboard. À un moment, t'y vas ou t'y vas pas. Bon, moi, j'étais pas un casse-cou. Hein. Je faisais pas partie de la caste de ceux qui sautent les 20 marches. Mais quand même, il y a quand même un petit truc, en tout cas chez n'importe quel skateur, de se dire, tiens, je me lance et j'y arrive ou j'y arrive pas. Et si j'y arrive pas, je recommence, je me lève. Et donc, il y a peut-être ça qui est resté en moi dans toutes ces aventures musicales, de se dire, tiens, tu te lances, tu crois en un projet, ça marche ou ça marche pas, on verra après. En tout cas, on donne tout pour faire en sorte que ça se passe bien, qu'on y croit. Il y a un élément, un facteur important dans nos métiers, en tout cas dans la création, c'est de croire en ce que tu fais, ce que tu défends, de le faire avec le maximum d'honnêteté, de naïveté. Naïveté, tu verras, je vais l'utiliser pas mal de fois.
Pourquoi ?
Dans le bon sens du terme. Parce que c'est bien la naïveté dans l'espèce de pureté d'y croire, en tout cas, de croire en projet, de se dire, tiens, sans trop, ça revient à la question de pas trop se poser de questions. Si tu te poses trop de questions, effectivement, t'auras 1700 raisons de pas y aller et 4 d'y aller. Donc moi, je préfère mettre les 4 raisons d'y aller en premier et ensuite voir ce qui n'a pas marché et faire en sorte que je ne me pose pas les questions après, justement.
Ouais, mais si on se pose des questions, je pense que c'est aussi parce qu'il y a une peur de rater, tu vois. Que si jamais ça foire, tu sois...
Oui, mais la peur de rater, ça, je
l'ai aussi.
Je l'ai autant que la peur de réussir. Je l'ai. C'est un.
Qu'est-ce que t'appelles la peur de réussir ?
Moi, j'en sais rien. Après, la réussite, c'est aussi un poids, c'est une responsabilité. Regarde, nous, on a une espèce de. Il y a une aura autour du label, donc maintenant, ça fait 15 ans et on a une certaine responsabilité dans le sens où on représente une certaine forme de la musique électronique française dans le monde, la puissance que représente Justice, par exemple. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose, tu vois, par rapport au fait de se dire, tiens, je présente un autre artiste, ça nous arrive souvent, et les gens me parlent que de Justice ou de Sébastien ou de Monsieur Oiseau, et je leur dis, bah, mais Headbanger, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Avec tout l'amour et le respect que j'ai pour les artistes leaders du label, il y a plein d'autres choses. Là, j'étais à Montréal avec Vladimir Cauchemar et Mid, et c'est bien aussi de proposer, de présenter quelque chose. Donc c'est ça que je souligne par le poids du succès. C'est que ça écrase aussi les autres, ça écrase l'envie aussi du label de proposer autre chose.
Toi, ça t'arrive de te sentir contraint dans tes volontés artistiques, justement parce que peuvent penser les gens de ce que doit être Headbanger ou...
Ah non, heureusement que non, moi je suis complètement libre de ça, il manquerait peu de te rendre compte. Si j'avais voulu effectivement pantoufler, pour utiliser un terme politique assez génial,
ouais, c'est
j'aurais produit que du Justice ou du Sébastien ou du Monsieur Oiseau depuis 15 ans.
Mais il n'y a jamais cette tentation, justement.
Absolument pas, non, il manquerait plus que ça. Mais non, mais après, bon, on est... C'est de l'audio, donc les gens voient pas, mais toi, tu es ici, tu vois de quoi on est entouré. On est un, tu sais, ici, c'est une espèce de MJC. Moi, je suis, j'ai 43 ans, mais j'ai besoin de vivre de avec toutes ces influences, tous ces liens à une culture alternative.
Ouais, il y a des skates, il y a des vinyles, il y a des...
Voilà, le skateboard, le hip-hop, la musique, et donc le label est né. C'est né de ça, c'est ça l'ADN du label. Donc évidemment, on va pas aujourd'hui se prendre pour un label qui commence à réfléchir et à cogiter et à faire des business plans sur tiens, ça va marcher et on va faire 2 plus 2 égale 4. Nous, on est plutôt du 1 plus 1 égale 1000. On invente nous-mêmes nos propres formules pour voir. Pour kiffer, hein, je t'avoue, c'est assez égoïste finalement comme aventure. Moi, je fais tout ça pour m'amuser, en fait.
Depuis le début, c'est ton but.
Ouais, alors je dis égoïste là parce que je suis un peu le chauffeur de bus, mais on s'amuse à plusieurs et j'espère qu'on amuse un tas de gens aussi.
C'est marrant quand tu dis il y a un côté MJC, ça me fait penser un peu à, enfin, tu sais, comme si tu gardais un peu le côté amateur du truc. Ah bon, pour pas te prendre au sérieux un peu.
Mais parce que c'est la vérité. Moi, je suis complètement amateur, même si je te taquine depuis tout à l'heure en disant que je suis un professionnel, donc je suis plus vraiment un amateur. Mais il y a un côté artisanal total que je revendique absolument. Moi, je suis attaché chez Headbanger dans le 18e. On est là depuis 20 ans. 10 fois, j'aurais pu déménager et louer 3 étages et qu'on soit 17 dans les bureaux, et en fait on est une équipe, on est 3 et c'est très bien comme ça, et donc il y a un côté complètement artisanal, ouais.
C'est ça qui permet de garder ta liberté aussi, tu crois? Est-ce que tu crois que le fait d'être petit et le fait, enfin petit dans le sens je dis pas que Headbanger est petit, tu vois, mais est-ce que tu crois que ça permet d'être plus libre, justement?
Ça fait partie effectivement de notre capacité à pouvoir réagir, à pouvoir rebondir plus vite, s'adapter. Donc, le fait d'être petit. Mais après, c'est pas quelque chose que j'entretiens spécialement. Je t'avoue qu'effectivement, de temps en temps, il m'arrive de me dire, tiens, putain, j'aimerais bien ne plus faire ci, ne plus faire ça, j'aimerais bien déléguer. Mais finalement, c'est une petite entreprise qui marche bien comme ça. On a la chance d'être épaulé, on n'est pas tout seul. Il y a les gens de Because Music, qui est le label qui me suit depuis 2005, donc avec qui, voilà, sur qui je peux compter. Donc on est, c'est une petite, c'est le noyau dur est quelque chose de d'assez restreint, mais heureusement on a réussi à créer. Après ça c'est plus de la cuisine et le music business, mais on a réussi à créer autour de nous un écosystème qui fait que on n'est pas tout seul et on a de quoi, ça nous donne une force pour diffuser notre musique un peu plus puissante.
Et ça implique pas mal de savoir ce que tu veux. Non, tout à l'heure tu disais que vous voulez vous amuser, et puis sûrement que vous voulez faire de la bonne musique et des bons trucs. Mais par exemple, ça veut dire faire une croix sur un truc que peut-être beaucoup de gens veulent, qui est par exemple, tu sais, être énorme ou être super connu ou ce genre de choses, non?
Ouais, mais alors nous on n'est pas contre la reconnaissance. Hein. Moi j'aimerais bien avoir 1 million de followers, mais en même temps, je préfère avoir nos 100 000. Followers qui savent qui on est, ce qu'on fait, qui s'intéressent à dyslexiques, qui peuvent être touchés par Mead, être fascinés par Justice et intrigués par Sébastien, tu vois, pour essayer d'en faire un petit et avoir confiance. Moi, il y a un rapport. Mon rêve absolu, c'est un espèce de créer un rapport de confiance. Mais bon, je t'en parle là parce qu'on discute, mais c'est normalement c'est pas moi d'en parler. C'est quelque chose que mon but ultime, c'est que ces 100 000 personnes nous, il y a un rapport de confiance entre eux et nous, et que ils nous suivent dans nos aventures musicales et extra musicales, qui s'arrêtent pas qu'à vendre nos disques. Hein. Moi, nos réseaux me servent moi à partager évidemment ce qu'on fait, ce qu'on produit, mais aussi des coups de cœur, s'intéresser à d'autres courants musicaux, à des artistes, à des choses qu'on voit. Et donc moi c'est plus ça finalement. Donc 100 000 ou 1 million, effectivement, si t'as 1 million de followers, tu perds un peu, je pense, cette notion de confiance. Donc c'est peut-être ça effectivement qu'on entretient dans cette idée d'être effectivement populaire, dans le sens où tout le monde a l'impression que Justice passe sur Énergie, mais c'est pas le cas. Tout le monde pense que on tourne autour du monde. Bon, si, ça c'est un peu le cas, mais bon, bref, il y a un espèce d'équilibre finalement qui est, j'espère, qui est plutôt sain, qui fait marrer les gens, qui fait rêver les gens, et en même temps un truc super terre à terre, tu vois. Mais là aussi je t'en parle parce que on est libre, on est sur un podcast, mais la cuisine aussi, finalement, de dire qu'on est des gens normaux, bah ça tue un peu le mythe aussi, tu vois. C'est bien aussi que les gens fantasment un peu. Moi, ça me fait marrer quand les gens pensent que je suis dans des jets privés avec Pharrell Williams. Ça peut arriver, mais en même temps, c'est pas la vraie vie, tu vois.
Les gens pensent que t'es dans des jets privés avec Pharrell Williams.
Ouais.
T'essayes d'entretenir un peu l'image, le côté
terre à terre.
Non, justement, le côté inverse.
Ah ben non, moi c'est les gens. Non, c'est ouais, ouais. Ah non, moi.
Parce que
moi,
tu dis que t'as pas envie non plus de complètement casser le mythe.
Non, mais parce que c'est marrant.
Ouais, okay, d'accord.
Effectivement, il m'arrive de dîner avec lui, de passer du temps.
Parce que vous vous connaissez depuis longtemps.
On se connaît, des choses comme ça, mais c'est très bien, mais c'est drôle, tu vois. Là, je te donnais cet exemple-là, mais que Justice achète des maisons à Los Angeles, toi des trucs comme ça, mais. Mais c'est bien le fantasme, c'est important aussi dans la musique.
Et c'est pas facile, enfin tu peux pas facilement te laisser tenter par vouloir plus de ça. Par exemple, quand tu t'entres un peu plus ou moins dans la jet set, ou que tu commences à fréquenter que ce soit Kanye ou Pharrell, d'avoir envie d'être plus là-dedans, c'est pas des trucs toi qui t'ont touché spécialement?
Non, on a, encore une fois, je crois que c'est une question d'équilibre. On a pile, je dis on parce que c'est une aventure commune, tout ça, donc les rencontres se font soit de façon directe, soit de façon tu vois, via un artiste avec lequel j'ai travaillé ou des choses comme ça, mais non, c'est une question d'équilibre. Moi je suis très bien, effectivement, ça me fait marrer d'être invité de temps en temps dans des trucs, mais il y a ce qu'il faut pour être un tout petit peu plus spécifique et plus intéressant quand même.
Moi, je trouve ça intéressant.
Non, mais c'est marrant et tout ça, les dîners, les soirées avec les stars et tout ça. Mais ce qui est vraiment fascinant, je t'avoue, moi, c'est le truc qui me, qui m'a rempli et qui m'a fait rêver, c'est plutôt avoir la chance de voir certains de mes héros en studio, aller écouter de la musique avec un producteur que j'aime bien, aller voir Kanye taper sur son sampler en studio. Tu vois, c'est effectivement Pharrell dans son studio jouer du piano. Il y a plus des choses comme ça, ou aller voir passer du temps avec les Cassius dans le studio Motorbass. Tu vois, c'est plus ça qui me remplit plus qu'effectivement les soirées qui sont très fun, hein, tu vois, effectivement c'est trop marrant d'aller au lancement de tel ou tel truc et faire la fiesta, hein, mais voilà, c'est une question d'équilibre, voilà.
Dans ce que tu dis, ça me fait penser à, tu sais, il y a, je crois que c'était il y a 2 ans, il y a Stupeflip qui a sorti un album, ils ont financé ça en crowdfunding et ça a trop bien marché.
Ouais,
c'est,
ouais.
Ils ont eu des centaines de milliers d'euros et je regardais ça et je me disais, je pense qu'ils ont eu ça parce que finalement ça fait assez longtemps qu'ils font le même truc sans trop dévier, tu vois. Je pense qu'ils ont une communauté de fans qui est peut-être pas gigantesque, mais en fait c'est tellement des surfans qui sont complètement dans leur univers,
ouais,
des fidèles, que ça marche trop bien. En fait, ils pourront vivre toute leur vie, enfin comme ça, avec Stupeflip. Même s'ils faisaient qu'un album tous les 2-3 ans, ils pourraient vivre, je pense, tous les 5 ans, tu vois. Et ça me fait un peu penser à ça, ce que tu dis avec Ed Banger. Tu vois, t'as un, là, je l'ai dit bizarrement là, Ed Banger. Tu vois, tu crées un peu une communauté de gens qui te permet finalement d'être assez libre ensuite dans ce que tu fais, quoi.
Moi j'irai pas jusqu'à leur demander de financer nos disques, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi c'est plus c'est un espèce de, voilà, de rapport de confiance. Alors maintenant avec l'âge, j'ai l'impression d'être, tu sais, envie d'être un peu un grand frère ou un truc comme ça, mais en tout cas la clé, mais je pense à aujourd'hui, 15 ans après, finalement, après le début du label, j'ai pas l'impression qu'on ait vraiment changé, en fait. Tu vois, même quand je vois Xavier Gaspard, alors effectivement, ils tournent plus, ils remplissent des salles de plus en plus grandes, mais on est toujours... on se marre toujours pareil, autant, quoi.
Et dernière question à ce sujet-là, je viens de penser à un truc. Quand t'as un groupe qui explose comme Justice, et c'était en plus ton premier gros succès sur Headbanger, et tout à l'heure tu dis je vais pas faire du Justice à tout le monde, etc. Mais est-ce qu'il y a pas quand même, parce que j'imagine que quand t'es un label indé, surtout à cette époque-là, et surtout quand tu l'as lancé où ça vendait de moins en moins de disques, est-ce qu'il y a pas une tentation de pas faire du Justice à tout le monde, mais de mettre un peu de ça dans chaque projet, tu vois, pour que ça y ait quand même une, tu sais, sorte de compromis pour avoir une petite garantie de succès commercial, tu vois.
Non, là, heureusement pour nous qu'on non on s'est pas posé cette question là et heureusement qu'on n'a pas fait cette bêtise là c'est simple, après Justice, pardon, on a sorti DJ Mehdi, donc était pour le coup artistiquement et musicalement assez loin de l'univers de Justice. Ensuite on a eu Mr Flash, ensuite on a eu Zongamin, un artiste japonais assez incroyable. Non, le but, encore une fois, c'est de diversifier le propos. Moi je me ferais tellement chier s'il y avait une recette, tu vois. Et ça me fait d'ailleurs assez marrer que les gens me disent ah, ça c'est le son Headbanger, et je leur dis mais le son Headbanger, expliquez-moi ce que c'est, parce que même moi je l'ai pas encore défini. Et effectivement, alors c'est ça qui est très réducteur, c'est que les gens reviennent souvent au son brutal, certes funky, de Sébastien ou de Justice, et je suis ravi que les gens si un jour on doit retenir qu'un seul truc, c'est ça, c'est très bien, mais ça manque un peu de curiosité, en tout cas les gens connaissent mal le catalogue du label, mais je suis pas pressé, hein. Les gens peuvent encore découvrir, là, il y a des gens qui découvrent Mr Flash maintenant, et je suis ravi, quoi.
Ouais, moi j'ai découvert en écoutant des interviews de toi. D'ailleurs, je suis tombé sur un truc assez marrant de toi à la Red Bull Academy. Je sais pas, ça devait être à Londres il y a 10 ans. Oh, et
tu veux parler de ma coupe de cheveux?
Non, c'était ça. Sympa. Mais
c'était un essai.
Ce qui est marrant, c'est qu'au début, tu dis. Ouais, donc je suis là à la Red Bull Academy. Moi, la seule académie en laquelle j'ai confiance, c'est l'académie de police.
Police Academy.
La police Academy. Ouais.
Putain, mais je suis trop marrant. Moi, je fais des blagues. J'avais fait cette blague, elle est bonne. Ouais, mais bon, nos éditeurs vont certainement pas connaître Police Academy.
Ouais, non.
Putain, qui est une série de films américains des années 80, assez incroyable. Ah, elle est pas mal cette vanne.
Ça m'avait fait marrer. Comment tu En fait, ton rôle, moi, tu sais, là, je suis arrivé, je t'ai filé le bouquin de Rick Rubin parce que j'aime bien. Et je t'ai
un
vu
beau
en,
cadeau. Hein.
Et je t'ai vu
merci,
en parler hein. plein de fois, pas de problème. Et est-ce que tu dirais que tu as un rôle un peu similaire, toi, enfin, avec les artistes, je veux dire, ou dans ta manière de les accompagner?
Alors, c'est, ça aussi, c'est assez délicat parce que c'est pas à moi de l'envisager comme ça. Mais effectivement, je m'inscris.
Sans te comparer à lui,
ouais,
en
ouais. Mais je m'inscris totalement dans ce genre de relation producteur-artiste, qui est à la fois quelqu'un qui est, voilà, un grand frère, quelqu'un qui est là pour rassurer, pour aiguiller, pour accompagner les artistes. Donc, je m'inscris totalement dans cette philosophie et dans ce rapport artistique et rapport à la création, quoi.
Et alors comment tu fais pour quand tu décides de signer quelqu'un, qu'est-ce que tu regardes en premier quand tu rencontres un artiste ou quand est-ce que c'est un
avant
son d'abord
ou... Avant de le regarder, je l'écoute.
Ouais.
Déjà parce que voilà, c'est un label de musique et on fait de la musique, donc d'abord on écoute. On est touché ou pas par la musique.
Est-ce que tu es plutôt du genre à aimer beaucoup de choses ou à détester beaucoup de choses et en aimer quelques-unes?
Oh, moi, je suis plus du côté de l'amour. Moi, j'aime plus plein de choses. Si j'aime pas, j'écoute pas, tu vois. Ou en tout cas, je passe mon chemin. En tout cas, et je me garderai bien de dire du mal d'un truc que j'aime pas. Si je l'aime pas, tu vois, passons à autre chose. Autant partager les choses qu'on aime. Et puisque les choses qu'on aime pas, c'est assez. C'est inutile en tout cas de passer du temps là-dessus. Mais donc pour revenir à la façon dont on signe des artistes, effectivement, moi c'est la musique. Après on apprend à se connaître, on fait un peu, on se renifle un peu. Moi je j'essaie de voir ce qu'ont les artistes à proposer et après eux j'imagine ils me demandent aussi moi ce que je peux leur apporter. Ce qui est assez agréable avec Headbanger, c'est que le challenge était de signer que des artistes qui n'avaient jamais sorti de disque, quoi, en tout cas au début, hein. C'était mon parti pris au début, c'était de signer que des...
Pourquoi t'avais pris ce parti pris?
Bah parce que j'aime bien l'idée d'écrire des histoires avec les gens et ensuite de... Les premières lignes, c'est quand même la vie, quand même, c'est quand même un... En tout cas, artistiquement parlant, c'est le Graal. Tu vois, moi j'ai commencé Daft Punk, ils existaient déjà, tu vois, ils avaient déjà une carrière, ils avaient déjà sorti des disques. Alors j'ai eu la chance moi de les rencontrer avant que ça explose, avant le premier album. Donc, mais c'était pas mon, moi j'étais pas là depuis le début. Et je dois avouer qu'avec Headbanger, il y a un challenge et surtout un plaisir de se dire tiens, ça a été le premier disque de Justice, le premier disque de Sébastien, donc il y a ça, il y a cet accompagnement qui déjà qui nous lie personnellement, sentimentalement parlant, assez puissamment quand même.
Vous devenez pote, c'est-à-dire vous...
Ouais, on devient pote. Alors on devient.
C'est
pote.
Possible d'avoir un artiste sur le label avec qui tu t'entends pas trop, enfin sans donner de nom ni rien, mais. Ouais.
Non, avec qui je m'entends pas, non, mais avec qui effectivement, on part pas tous en vacances ensemble, ça c'est clair. Mais après, on passe tellement de temps ensemble, que ce soit en tournée, ou en studio, ou des choses comme ça. Effectivement, il y a un rapport amical qui se crée, quoi.
Et alors, quand tu dis, je vois ce qu'ils peuvent m'apporter, et ce que je peux leur apporter, qu'est-ce que tu peux leur apporter, toi?
Beaucoup d'amour, déjà. Mais que ça,
j'aurais non, mais c'est important.
Beaucoup d'amour, mais ce que je pourrais apporter, nous encore une fois on a créé un écosystème assez solide. Moi la fierté que j'ai avec le label, c'est que les fondations sont bien posées. On a des équipes autour de nous qui nous aident à faire la promo, qui nous aident à diffuser le disque. Et après, moi, j'ai mes connexions, mon savoir-faire, ma sensibilité. Et c'est ça que j'ai à offrir. Et je pense que les artistes avec lesquels je travaille aiment cet environnement qui est à la fois professionnel, passionnel, sentimental, commercial. Je t'ai fait exprès des petits mix là, mais il y a effectivement un côté professionnel parce que le label a 15 ans maintenant, donc on est sorti du petit label indépendant, mais on n'est pas non plus, on est très loin d'une major compagnie, et donc voilà, donc il y a un savoir-faire, mais voilà. un peu le, tu vois, quoi, je sais pas, c'est, voilà, c'est ça.
Il y a des conseils que t'as l'impression de donner souvent, qui reviennent beaucoup quand t'as des artistes? Ou pas des conseils forcément, mais des choses avec lesquelles t'as l'impression qu'ils ont beaucoup besoin d'aide?
Moi, je suis mauvais en conseils, ou en tout cas, je suis pas, j'aime pas trop donner de leçons, mais non, moi, la chose, en fait, c'est, après, c'est comme d'habitude, hein, tu donnes ce que t'as appris. Moi, avec Daft, notamment, c'était la patience, tu vois, et que le travail paye, et que voilà, et que si c'est pas ton tour aujourd'hui, ça sera peut-être demain.
Parlons de ça deux secondes, ouais. Ça m'intéresse beaucoup. Je voulais peut-être en parler plus tard, mais il y avait un truc qui m'intéressait avec Daft Punk, c'est que pour le coup, c'est vraiment un groupe patient, dans le sens où ils sortent des albums. Leurs albums ont beaucoup d'espace entre chaque album.
Comme les Beastie Boys.
Ouais, et j'imagine donc que c'était voulu, que c'était pas parce qu'ils trouvaient que ce qu'ils faisaient était nul entre les. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est quelque chose de... Je sais pas comment le formuler.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Est-ce que eux faisaient ça vraiment consciemment, de mettre énormément de temps entre leurs albums, de passer énormément... Il n'y a pas un moment où tu te dis il faut absolument sortir la musique, tu sais, sinon elle devient vieille ou...
Si, mais il y a plein d'artistes qui se posent la question de dire tiens, il faut que je sorte un disque par an. Hein.
Parce qu'en ce moment, on voit beaucoup...
4 disques par mois, regarde Kanye, quand il a fait son coup de mitraillette l'autre jour, il a sorti 4 albums en 3 semaines.
Et puis là, il vient d'annoncer un nouvel album aujourd'hui.
Donc non, chaque artiste a son envie, ses besoins. Je pense que pour Daft ou pour Justice, parce que Justice aussi, ils mettent du temps entre chaque disque, il faut pas oublier que 5 ans, c'est pas grand-chose non plus. Ça paraît long pour nous, les fans.
Ça paraît long maintenant, ouais. Non, mais même moi, pas pour les fans.
Moi, j'attendais Beastie Boys comme un fou et ils mettaient 5 ou 6 ans entre leurs disques. Mais après, il faut remettre les choses dans leur contexte. Un groupe comme Justice sort un disque, après, il y a 2 ans de tournée. Donc ça fait déjà 2 ans. Ensuite, il faut se remettre en studio, donc il y en a au moins pour 1 an, donc ça fait 3 ans. Ensuite, il faut préparer la sortie, une autre année, ça fait 4 ans. Bon, bref, tu vois, ça peut passer très vite. Et après, il faut pas oublier non plus que les artistes, ils ont leur vie. Il y en a qui sont pères de famille, qui ont des vies à gérer, et qui se disent tiens, peut-être que je mets un petit peu au vert. Bon, bref, il y a pas. Je te donne des exemples comme ça.
Mais donc cultiver la rareté comme ça, c'est pas vraiment une stratégie.
Je pense que le tempo en tout cas de sortie disque, c'est pas ça. Quand je faisais allusion à la patience ou c'est pas ça. C'est plus la patience, c'est que les choses arrivent quand elles doivent arriver et que ça sert à rien de forcer un peu le destin, tout faire, être omniprésent en se disant tiens, ok, je vais être partout. On va parler de moi et tout ça. Je pense pas que ça soit la bonne solution. En tout cas, voilà. Donc nous, on est plus dans cette méthode-là de se dire, on pose les pierres une par une, et petit à petit, tu vois, l'édifice va grandir. Et c'est dans ce sens-là où je partage, en tout cas, cette méthode-là de dire aux artistes, ok, là t'as sorti un single, on va en faire un autre. Écris ton histoire. Effectivement, aujourd'hui, tout va vite. Alors, il y a des artistes qui sont un peu dégoûtés en se disant « Ah, mais regarde, lui, il a sorti un truc, il a déjà explosé. Bah, » tant mieux pour lui. Et en même temps, voyons s'il sera encore là dans 3 ans ou dans 4 ans. Et c'est ça, nous, la chance qu'on a, encore une fois, avec le label, ça fait 15 ans. Et on a encore, j'espère aujourd'hui, cohérent et excitant, tu vois, alors que c'est une nouvelle génération déjà qui est en train de découvrir le label, par exemple. Là, c'est les petits frères de ceux qui venaient voir Justice en 2007.
Et pourquoi, justement, il y a des artistes qui durent et d'autres qui disparaissent au bout de 3 ans? Enfin, tu vois, tu dis que vous êtes là sur le long terme. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, que tes artistes arrivent, enfin tes artistes, les ouais. artistes de Headbanger arrivent?
Je t'avoue, j'ai peut-être pas la réponse à cette question, et ça serait un peu bateau de dire l'honnêteté des projets, puisque ça veut dire pas grand-chose non plus, l'honnêteté des projets. Mais en tout cas, ceux qui durent, en tout cas, c'est ceux qui ont créé, qui ont écrit des belles histoires. Mais en même temps, tout peut s'arrêter demain, tu vois. Et ça, donc il y a pas vraiment de il y a pas de recette pour cette histoire de durer ou pas durer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de encore une fois de continuer à proposer des choses. Et il faut pas oublier, encore une fois, qu'on fait quelque chose qui est pas très palpable, puisque c'est de l'art, on touche à quelque chose qui est que tu ranges pas dans une caisse
parce qu'on a l'impression, tu vois, que enfin je trouve, avec notamment internet, et j'ai grandi avec ça, et les réseaux sociaux, qu'en fait si tu sors pas des trucs tout le temps, t'existes pas. Et on voit même par exemple avec Instagram, je prends des illustrateurs par exemple qui vont sortir un dessin par jour qui font qu'ils explosent, tu vois. Ou même Booba, ça fait plusieurs années qu'il dit que, enfin, c'est pour ça qu'il sort un projet par an, c'est parce que sinon il a l'impression qu'il n'existe plus, tu vois. Et peut-être pareil avec Kanye. Et donc je pense que, enfin, moi en tout cas j'ai cette impression, et sûrement qu'on est plusieurs à l'avoir, que si t'es pas toujours en train de sortir des choses et de dire regardez je sors des trucs, tu t'existes pas, tu vois. Et en fait, d'un autre côté, je vois des groupes comme, enfin, des Daft Punk ou d'autres gros trucs qui prennent le temps et qui, quand ils sortent un truc, ça, c'est trop bien, tu vois.
Et ben voilà, mais on vit dans un monde complexe et multiple, et donc c'est bien de se dire qu'il y a des gens qui sont sur une autoroute et qui tracent et qui sentent des trucs toutes les 4 secondes, et d'autres qui se baladent sur des routes nationales et qui prennent leur temps. Et effectivement, nous, on a cette chance avec Headbanger, c'est de pouvoir passer de l'un à l'autre, tu vois. On est présent évidemment sur les réseaux, mais on n'est pas omniprésent non plus, et on prend notre temps et on fait des choses, encore une fois, avec nos cœurs et nos, tu vois, et donc c'est pour ça qu'il y a pas, tu sais, il y a pas de, faut pas choisir l'un ou l'autre. En tout cas, il y a pas une méthode mieux qu'une autre. Finalement, c'est bien aussi que les gens, et c'est pas incompatible. Tu peux, tu vois, être fasciné par tes artistes qui ont une réussite, tu vois, internationale, voire galactique, avec des millions de fans. Et à côté de ça, tu peux, aujourd'hui, en tout cas, aujourd'hui, le rapport aimer des trucs underground ou aimer des trucs commercial, il y a pas de problème, en tout cas, tu vois, il y a pas de, puisque aujourd'hui on a en tout cas la chose positive, ce qu'il faut se dire, c'est que les jeunes aujourd'hui, ils peuvent autant aller écouter Ariana Grande et Larry Heard, quoi, tu vois, c'est-à-dire ils ont
ouais, moi je suis le pire à ce niveau-là, j'ai vraiment de commercial à underground, voilà. Je suis vraiment
et c'est très bien comme ça, tu vois,
ouais, bah ouais. Ouais, parce que quand je grandissais, justement, il y avait un peu une honte d'écouter des trucs commerciaux, etc. Ce que je trouve dommage. Moi, il y a plein de trucs pop et mainstream que j'adore, quoi. Donc, est-ce que c'est des gens qui travaillent énormément, les groupes qui réussissent, tu vois, les Justice, ah, les
oui.
Daft Punk?
Oui, oui, ça c'est...
Parce que tu vois, on parle de patience, mais il y a patience et patience. Je pense que...
Tu vois, ah oui, oui, je dis pas patience, je dis pas salle chez le médecin où t'attends et tu lis... l'éternel numéro de Géo Magazine sur la Nouvelle-Zélande.
Ouais.
Non, dans la patience, j'en dis, effectivement, c'est lié évidemment au travail, au génie et au talent, ça c'est une évidence.
C'est vrai, ça, qu'est-ce que tu appelles le talent?
Moi j'ai eu la chance de croiser le chemin, ça c'est le moi, ma réussite, elle vient que de la réussite des autres, en fait. Tu vois, moi c'est mon... Moi, je ne suis que l'accompagnateur et effectivement, côtoyer DJ Mehdi, côtoyer Xavier Gaspard, Zdari Boumbas de Cassius, effectivement, Sébastien, ouais, ils ont ce petit truc génial, hors du commun, qui fait qui marque leur époque, qui marque les esprits et qui marque la musique électronique française, quoi.
Plus du coup une grosse discipline.
Bah, des travailleurs. Bah après, tu sais, les mecs, c'est des, ils bossent, que ce soit en train, pour la musique, que ce soit pour le côté image de ce qu'ils ont envie de représenter. Moi, il n'y a pas un artiste avec lequel j'ai bossé là depuis 25 ans qui s'est pas autant impliqué dans sa musique que dans son image ou dans ses clips. Nous, c'est un... d'ailleurs, on avait il y a très longtemps, on avait fait des disques où on appelait ça « Music for your eyes ». Tu vois, la musique pour les yeux, et c'est lié, tu vois, nous on fait partie aussi d'une génération où la musique est effectivement le principal médium artistique pour s'exprimer, mais sans le visuel, ou en tout cas sans l'imagerie, t'es moins puissant, et donc nous on a toujours associé ces deux vecteurs ensemble pour créer des choses, et je pense que une part du succès de nos aventures vient de cette association.
Oui, de manière assez cohérente d'ailleurs, parce que vous avez tout fait au départ, et je sais pas si c'est toujours le cas avec Somi, qui faisait l'identité visuelle de la plupart de tous les...
Oui, c'était le directeur artistique du label. Alors maintenant, il est moins omniprésent, puisqu'il a lui-même ses activités de réalisateur, il fait beaucoup, beaucoup de choses. Il est évidemment toujours là, et c'est justement ce qui est assez génial, je trouve, dans notre aventure, c'est que et les gens le remarquaient, mais on est sorti des pochettes avant. Effectivement, c'était Somi qui avait la main mise sur tout la direction artistique du label. Et au fil des années, on a commencé à appeler d'autres gens à droite à gauche, rencontrer des photographes, faire d'autres choses, mais de façon très, très naturelle. Et même s'il est plus là physiquement, puisqu'avant il était effectivement dans ce bureau-là, il est là. C'est son label. Et moi, effectivement, je suis peut-être un peu la vitrine du label, j'en suis ravi, mais c'est le label de Somi autant que c'était le label de Mehdi. Donc c'est assez agréable finalement de savoir que ce label appartient à plein de gens, quoi.
Oui, c'est intéressant en plus parce que tu vois, tout à l'heure tu disais on me demande ce que c'est le son headbanger et tu sais pas, mais en fait du coup il y a quand même une identité si t'arrives à, même si t'as plein d'artistes différents, à avoir des blocs qui sont les mêmes pour chaque artiste. Il y a toi, il y a Somi, et en fait finalement ça crée une identité, notamment au début, quoi. C'était ça, une identité, oui, forte de marque.
Ça vient aussi, c'est juste ce que tu dis. Ça, effectivement, je pense que c'est Mehdi qui disait ça, mais lui d'ailleurs était très bon pour ça. Il disait que j'étais le trait d'union de tous les artistes. En gros, que c'était moi qui faisais le lien entre la musique que Mehdi pouvait faire et le lien avec Justice, Mr. Flash et Sébastien, etc. à l'époque, Crazy Ball Dead et d'autres artistes. Et disait que c'était moi qui était un espèce de lien de tout ça et qui rendait la chose cohérente. Donc c'est évident, parce que c'est moi qui ai monté le label.
Mais c'est intéressant ça. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles t'as dû progresser justement à ce niveau-là, ou tu sais, dans ton rôle de liant finalement?
J'ai dû progresser. J'espère que j'ai progressé au fil des années.
Non, mais qu'est-ce que tu dirais que t'as travaillé finalement consciemment, ou que t'as essayé de travailler?
Merde, attends, là ça craint, parce que si je te dis que j'ai travaillé, je vais passer pour un fainéant. Non,
non, mais ça c'est peut-être naturellement. Non,
je t'avoue, c'est un peu hippie ce genre de raisonnement, mais en fait c'est quelque chose de tellement naturel pour moi. De naviguer dans cet univers et de gérer les artistes, les questionnements, les paranos, les excitations de des artistes. Donc finalement j'ai un rapport avec tous assez, finalement, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à un travail de producteur comme Rick Rubin ou des gens comme ça. Effectivement, entourer les artistes, il faut avoir une certaine forme de langage pour les accompagner, les apaiser.
C'est-à-dire?
Il faut prendre des pincettes, mais en même temps il faut savoir les stimuler. C'est pas facile de dire à des artistes ah non, ce morceau j'aime pas. C'est quand tu te retrouves en studio avec Cassius ou avec Justice et te font écouter leur disque et tu dis ouais ça j'aime moins. Effectivement, il faut avoir un peu, il faut savoir le dire.
Ouais, c'est ça qui est important, hein, parce qu'en plus il y a plein d'artistes connus qui doivent avoir pas mal de yes men autour d'eux.
Exactement.
Est-ce que moi j'ai l'impression parfois quand j'entends la musique de... En fait, je prends toujours le même exemple, pas cet album-là, mais juste d'avant de Eminem, où vraiment le mec il débarque, et je trouvais ça vraiment hyper nul, et je me dis c'est pas possible, quoi. Il y a personne qui doit lui dire que c'est nul et que personne trouve ça bien, et même pas les vrais fans hardcore, tu vois. Et je me dis souvent ça quand j'entends
Ah non, t'as raison, les Yes Men, ça c'est le drame, de toute façon c'est le...
Tu les vois quand, quand tu bosses dans la musique
Des Yes Men ?
Ouais, tu remarques ce...
Ah bah oui, oui, il y en a beaucoup, mais encore une fois, nous on n'est pas vraiment concernés par ça, tu ouais. vois. On... Et c'est pour ça qu'on revient au côté artisanal de la chose, on n'est pas pollué par 12 000 mecs de maisons de disques qui viennent donner leur avis... Voilà, c'est quelque chose qui se fait de façon très familiale, tu vois, parce qu'on a, on a parlé, on parlait beaucoup d'artisanat, mais aussi, on peut parler de famille aussi. Donc, on se fait écouter des morceaux les uns les autres. Et plus qu'une compétition, c'est une espèce de motivation. Là aussi, c'est Mehdi qui parlait souvent de ça en disant, ouais, tiens, moi, j'écoute la musique des autres et ça m'inspire. Ça me donne envie de faire mieux, ça me donne envie de, d'évoluer dans le son, etc., etc.
Et comment tu fais alors pour, t'écoutes un morceau de Justice et tu trouves que c'est pas super? Comment tu fais pour donner tes retours, justement, sans pour prendre des pincettes, mais en même temps donner vraiment bien ton avis, tu vois? Parce que c'est difficile à faire. Moi, par exemple, parfois, j'écoute des trucs que font des gens ou des potes, et en fait, je trouve qu'ils pourraient l'améliorer, mais j'ai l'impression que je ne vais pas arriver à le formuler et qu'ils vont croire que je trouve que c'est nul.
Ben voilà, c'est ce que tu viens de dire. Tu n'as pas réussi à le formuler, et notre rôle, c'est de trouver les mots, justement, traduire une sensation, une émotion, et d'essayer de les guider vers quelque chose d'autre. Mais moi, plutôt que j'ai un exemple assez marrant, plutôt que de parler de morceaux que j'aurais moins aimé, il y a des morceaux que j'ai adorés et qu'on failli ne pas finir sur le disque, par exemple. Et on l'avait écrit d'ailleurs, je crois que c'était sur le, c'est sur Audio Vidéo Disco, sur le deuxième album de Justice. Il y a un des morceaux qui était à la poubelle dans leur studio, et je leur dis, mais non, les gars, impossible qu'on zappe ce morceau-là. Et qui a été finalement un des morceaux, c'était New Jack, je crois. Un des morceaux préférés des gens sur le deuxième album de Justice. Pour Justice, il y a une anecdote que pas mal de gens connaissent. Waters of Nazareth. La première fois qu'ils m'ont fait écouter Waters of Nazareth, j'ai pas compris tout de suite. Tu vois. Et finalement, ils ont bien fait de se foutre de moi et de me bousculer un peu, parce qu'après, j'ai évidemment adoré le morceau, et ça a été une marque de fabrique importante pour Justice et pour Ed Banger.
C'est des gens qui ont une forte confiance dans ce qu'ils font quand ils te font écouter un truc, par exemple.
Oui, parce que comme ils ont beaucoup bossé en amont, ils viennent avec quelque chose qui est abouti. Donc
c'est ça peut-être le secret, c'est dans le travail d'avant, d'aller vraiment jusqu'au bout du boulot.
Oui, après moi j'aime bien écouter les ébauches aussi des choses.
T'écoutes aussi les démos.
Ouais, c'est quand même agréable de voir, mais effectivement, là, en tout cas par rapport à la musique que les artistes du label produisent, comme c'est de la musique électronique, donc tu vois, ils viennent pas, bon, Justice, ils composent avant, tu vois, mais ils viennent pas me faire écouter, tiens, Waters of Nazareth en version piano, et tiens, ouais. Et on va le produire, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc effectivement, ils vont jusqu'au bout du truc, et on écoute un projet qui est presque fini, quoi.
Et quand des artistes sont bloqués, j'imagine que ça doit arriver. Des artistes n'arrivent plus à avancer ou soient bloqués sur leur album ou sur leur projet. Comment tu fais pour aider à ce niveau-là?
J'ai jamais eu ce cas de figure. Au contraire, on a plus eu des trucs où les artistes ont 30 morceaux et il faut élaguer, quoi. Il faut garder que le nectar. Tu vois, c'est plutôt les gens, tous les artistes du label sont plutôt assez productifs. Donc non, c'est plutôt l'inverse. Non.
Tu dirais c'est une bonne idée de produire en quantité démesurée pour ensuite pouvoir regarder ce qu'il y a de mieux.
Pareil, il n'y a pas de, tu vois, c'est pas l'un ou il n'y a pas de méthode. Justice, ils font un morceau l'un après l'autre. Sébastien, il peut bosser sur 14 morceaux en même temps.
Ils font un morceau, ils le terminent, voilà, et pas sur le suivant. Exactement. Ils font jamais deux morceaux en même temps. Hein, c'est intéressant.
Tu vois, mais c'est leur méthode. Tu vois, chacun a sa méthode.
Toi, t'as une carrière en tant qu'artiste avec Buzipi. T'as pas eu envie de
tout plaquer.
Non, pas de tout plaquer, mais t'as pas eu envie de le pousser plus loin, parce que finalement, t'espaces ouais. beaucoup, t'es sorti. Et...
Ouais, ouais, ouais. Bah, je les espace parce que j'ai pas le temps. Tu vois, là, on est dans la cave du.
C'est ici que tu fais de la musique quand tu.
J'en fais ici. Avant, j'avais un autre studio que je partageais avec deux potes. Mais j'ai pas le temps, tu vois, malheureusement. Et pourtant, c'est quelque chose au fond de moi. Alors, heureusement pour moi, c'est pas un besoin, parce que sinon, je serais très triste, très très frustré, puisque j'en fais pas assez. Mais je sais que j'aime bien passer du temps. J'aime bien taper sur ma MPC, mon vieux sampler. Mais ouais, c'est une question de temps, une question de priorité. Pour l'instant, c'est ma Ma vie, c'est le label, toujours. Je m'amuse, moi, à sortir des disques. Ça me fait marrer. Et ça va aussi dans cette philosophie de vouloir à la fois être derrière, être devant, un équilibre. Tu vois, c'est encore une fois, j'ai la chance d'avoir accompli un peu mon rêve, avoir créé mon propre jouet, qui est à la fois mon label où je peux sortir la musique des autres, m'épanouir avec la réussite des gens que j'accompagne, et en même temps moi m'amuser, voyager à droite à gauche, mixer. Moi je mixe depuis 1995, donc c'est une vraie passion. C'est un besoin pour le coup. Vraiment, j'ai passé des disques, en tout cas partager la musique et voir les gens danser, c'est quelque chose qui m'excite, qui me fait vivre. Et après composer, ça c'est un vrai travail. Il y a des limites à ça, puisque moi je peux pas terminer un morceau tout seul. J'ai eu la chance à chaque fois d'être bien entouré avec les artistes du label, mais donc c'est du temps. Mais j'y pense beaucoup là ces derniers temps. J'ai de plus en plus envie de m'y remettre.
Et comment tu pourrais faire? Faudrait bloquer des...
Ben il faudrait que j'arrête de sortir les disques de tout le monde. Donc non. Là il faut justement, là on est en pleine réorganisation justement, un peu d'accueillir un peu plus de monde autour de moi, rester encore une fois artisanal, mais peut-être apprendre à déléguer un peu plus.
C'est un truc que tu fais pas parce que tu penses pas, ou est-ce que tu arrives pas trop à déléguer?
Un mélange des deux, et aussi encore une fois, avant que tu arrives, j'étais en train d'envoyer un mail à Vladimir Cauchemar, payer un photographe pour Mide, chauffer un artiste pour un remix pour le prochain single de Breakboat, travailler sur un radio audit de... J'aime bien, tu vois, être un peu, je fais tout le temps cette comparaison du chauffeur de taxi, tu sais, où il sait pas où va finir sa journée et savoir ce qu'il va faire, tu vois. Et en fait, moi, j'ai un peu ce syndrome-là j'ouvre mes mails et tiens, je vais bosser sur tel livre, sur tel remix, sur telle tournée, essayer de convaincre tel artiste de faire un remix pour machin chouette, booker un studio pour je sais pas qui, payer un chanteur, clearer un sample.
C'est ça que t'appelles quand tu disais la naïveté ou la spontanéité un peu?
Ouais, quoi. En tout cas, la spontanéité de faire les choses. Moi, j'ai besoin. Ça m'amuse en tout cas d'avoir les rênes comme ça. C'est une chance inouïe d'avoir toi sa propre structure, son propre label, sa propre entreprise finalement.
Tu te le dis souvent ça?
J'ai beaucoup de chance.
Ouais, que t'as de la chance.
Ah ouais, tous les jours.
Ah ouais?
Ouais. Ouais, je sais pas qui je remercie, mais je remercie quelqu'un. Ouais. Ouais. Ah bah ouais.
Tu t'es toujours dit ça ou c'est de plus en plus?
Non, mais je me le suis toujours dit que j'ai eu beaucoup de chance. Ouais. Que j'ai beaucoup de chance. Ouais. Bah ouais.
C'est intéressant parce que quand tu décris ce que tu fais et toutes les choses différentes que tu fais, ça me fait penser au fait que j'ai l'impression qu'en ce moment, on met beaucoup l'accent sur, tu sais, le focus, il faut faire un truc, être hyper fort dans ce truc-là et tout. Puis en fait, finalement, notamment avec ce podcast, je rencontre plein de gens qui, toute leur vie, font plein de choses différentes et ça crée des intersections intéressantes parce que du coup, ils connaissent plein de choses. Et du coup, bah, tu vois, tu peux créer un label et accompagner des artistes parce qu'en plus, tu touches à tous ces trucs depuis 20 ans ou 30 ans.
Bah, tu m'étonnes. C'est le bonheur de l'aventure, et c'est peut-être pour ça finalement que c'est la musique qui a été ma passion. C'est qu'à travers la musique, tu rencontres des réalisateurs, tu fais des clips, tu montes des tournées, donc c'est qui des mondes complètement différents. Mais j'adore encore une fois l'envers du décor, de dire tiens, une tournée, il faut un directeur de production, il faut un tour manager, faut un mec aux lumières, faut un mec à la scéno, faut un mec au son. Comment t'emmènes tout ce matos d'un endroit à un autre? En fait, tout ça, ça me fascine. En fait, après on fait des photos. Pourquoi on fait des photos? Ah bah tiens, on va faire un livre. On édite un livre. C'est quoi? Il faut un directeur artistique. Il faut fabriquer un livre. Ah bon, mais il y a tout le temps d'usine, et la distribution d'un livre, comment ça se passe, le lancement d'un disque, on va faire un concert, mais on peut faire autre chose, on peut faire un pop-up, voilà. Et c'est multiple, donc c'est une forme d'expression, et c'est un art qui est tellement malléable, donc c'est un bonheur. En tout cas, tu peux être qu'inspiré par ça, et en plus j'ai eu la chance encore une fois d'être entouré d'artistes qui m'abreuve de bonne musique et de bonnes ondes. Donc à moi de voilà, ici c'est un peu le centre névralgique, et on dispatche un peu tout ça.
Ça t'est déjà arrivé de justement de pas avoir cette stimulation et de t'ennuyer des périodes où il n'y avait pas cette énergie?
Non, alors après je vais pas non plus faire de langue de bois. Il y a des un label, la vie d'un label, c'est comme dans la vie de tous les jours. Moi c'est pas tant ennuyé, c'est juste tu l'imagines bien, le départ de DJ Mehdi nous a tous mis un coup derrière la tête. Et effectivement, à un moment, c'était une espèce de remise en question personnelle, professionnelle, ou de se dire tiens à quoi bon continuer tout ça tout seul. Et en fait, donc ça, il y a eu des moments super down. Donc effectivement, même peut-être qu'artistiquement ça s'est ressenti, les gros artistes sont en tournée, produisent moins de disques, mais c'est la vie, tu vois, c'est la vie, faut la prendre comme elle est, avec justement les moments de grâce et de joie, et les moments un peu plus délicats et difficiles à vivre. Et justement, et c'est là où tu te rends compte que t'es entouré, que t'as une famille. Et nous, c'est l'effet de groupe qui a fait qu'on s'est tous serré les coudes et que on a traversé cette épreuve. Et c'est, mais il y a eu cette épreuve, mais il y a eu d'autres choses aussi, hein, mais qui fait qu'aujourd'hui on célèbre les 15 ans du label avec le sourire réuni et avec plein de projets encore dans la tête.
Moi, j'ai toujours l'impression d'avoir pas mal de chance à ce niveau-là, parce que j'ai jamais été vraiment confronté à des décès de gens proches. Ou, tu vois, j'ai eu des grands-parents, mais c'était pas là une surprise. Ou... Est-ce que toi, ça a changé quelque chose dans ta vision un peu de la vie ou ta manière de vivre que Mehdi meurt?
Bien sûr, bien sûr. C'est quelque chose qui te fait réagir, réfléchir, et d'autant plus. Tu vois que c'était mon meilleur pote, c'était un peu la deuxième jambe du label, donc c'était quelque chose de au-delà du, tu vois, du, donc oui, ça nous a tous fait réfléchir, et notamment par rapport à nos modes de vie où on courait. Nous, avec Mehdi, on jouait jeudi, vendredi, samedi, toutes les semaines, on était en vadrouille. Et à un moment, on se dit bon, bah, peut-être qu'il faut un peu appuyer sur le frein et se calmer un peu, profiter de la vie, profiter de sa famille. Donc ouais, ça a remis pas mal de choses en question, mais de encore une fois, de façon positive, il faut, tu vois, t'as pas le choix, parce que sinon tu t'en sors plus. Et maintenant le but du jeu dans tout ça, c'est faire en sorte que sa musique soit la mémoire tu vois de cette belle carrière, et j'espère qu'il y a, voilà, moi je suis touché de tous les témoignages qu'on a évidemment reçus. Les gens, il y en a qui découvrent encore aujourd'hui le côté rap de Mehdi, le côté électro, c'est ça qui est important, et c'est ça qu'il faut célébrer finalement, c'est que c'était un trait d'union parfait pour des cultures soi-disant si différentes, alors qu'elles le sont absolument pas. Donc c'est ça qu'il faut célébrer, c'est ça qu'on essaye, nous, à notre façon, d'essayer de faire perdurer en continuant à jouer sa musique, en pensant à lui tous les jours, voilà.
Ouais, moi j'ai découvert son LP en fait il y a quelques mois chez des gens chez qui j'ai habité un peu, qui avaient le double, et qui était trop beau, le disque. Et donc je l'ai écouté direct, parce que en fait j'avais jamais capté l'existence de cet album, quoi.
Là tu parles de Lucky Boy.
Ouais, c'est ça.
Alors je t'invite Antonin, et j'invite tous les auditeurs à aussi vous pencher sur le premier album de DJ Mehdi, qui s'appelait Espion. The Story of Espion, qui était sorti chez Virgin en 2001 ou 2003, je sais plus, 2003 je crois. Et donc là, c'était quand moi j'étais manager de Mehdi à l'époque, qui est un disque qui était son album de transition, justement, de l'époque 113 vers à quelque chose de plus dansant, électronique, même si lui était convaincu de faire du hip-hop, hein. C'était ça qui était assez génial, c'est que musicalement, il disait moi je fais du hip-hop, alors que ça sonnait déjà un peu plus électro, quoi. Mais ouais, c'était une superbe aventure.
Est-ce qu'il y a des choses avec finalement tout ce que tu fais, que ce soit l'activité de DJ, le label, ta famille, etc., est-ce que tu as des choses que tu as l'impression d'avoir dû mettre de côté ou sacrifier un peu?
Finalement, non, peut-être pas, oui et non. Oui, tu sacrifies des choses, mais mais c'est, ça fait vase communicant, c'est-à-dire que tu sacrifies quelque chose pour bénéficier de... Tu vois, évidemment, est-ce que je devrais passer plus de temps chez moi, en famille, ou est-ce que c'est cool d'arriver à faire un peu de mixer les deux tout en étant heureux. Donc non, moi j'ai pas de... Je pense j'ai pas de regret d'avoir choisi une tournée ou un projet plutôt que telle ou telle décision. Quoi.
Et pour un peu finir, comment tu... maintenant que tu as des enfants et qu'ils grandissent, comment tu fais pour... Enfin, qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre, en gros?
Moi, j'ai qu'une petite fille, hein, pour l'instant.
Ouais.
Mais qu'est-ce que... Bon, là, pour l'instant, tu sais, elle a 5 ans, donc ouais, je la force pas du tout. Le seul truc que j'ai fait, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de musique à la maison, c'est-à-dire qu'elle a accès, il y a une platine, elle peut choisir les disques qu'elle met. Moi, je lui achète des disques... Mais toi, les fans, moi, elle est fan de DJ Snake et Justin Bieber, et j'adore ce morceau Let Me Love You aussi maintenant. Et mais elle adore aussi le disque bleu de Serge Gainsbourg, tu vois, Bonnie and Clyde. Donc toi, c'est assez marrant. Et à cet âge-là, tu vois, et ça revient à la naïveté que j'adore. À cet âge-là, tu choisis pas la musique parce qu'elle est cool ou pas cool. Tu choisis la musique parce qu'elle te fait marrer, elle te fait danser, et tu peux faire une chorégraphie. Mais donc le côté transmission, on a encore le temps. Elle choisira elle-même ce qu'elle aimera. Je flippe un peu. Je redoute les moments où elle va découvrir l'internet et elle va retrouver des photos de son père torse nu dans des boîtes de nuit. Mais bon, ça va être marrant.
Ouais, c'est pas pire que les enfants de rappeurs, tu sais. Où...
Ah, ça c'est clair que les
Kanye,
enfants.
Kanye, il a fait une chanson bien là-dessus.
C'est vrai,
récemment, ouais, sur son dernier album. Ouais.
Ah, j'ai pas fait gaffe.
Tu sais, avec ça. Parce que lui, ça fait des. Enfin, bon, il s'est un peu calmé là-dessus, mais quand même, tous ses premiers albums, ça parlait pas mal de meufs, etc., ouais. Et de soirées et tout. Puis maintenant, il a une fille qui grandit, quoi.
Bon, I Love You, ça parle pas mal de meufs aussi. Hein.
Ouais, ouais. Et dernière petite question, que j'aime bien quand même, c'est qu'est-ce que tu dirais à Pedro Winter si tu le croises? Qu'est-ce que tu dirais à la version de toi qui a 30 ans, tu vois?
Le moment psycho. La version de moi.
Qui a 30 ans, quoi. Toi, à 30 ans, tu te dirais quoi? Enfin, quand
tu t'habilles toujours comme un ado. Non, moi, 30 ans, qu'est-ce que je me dirais? 30 ans, donc ça faisait 10 ans. Putain, ah ouais, 30 ans, putain, c'était il y a 13 ans. C'était le tout début d'être banger, quoi. C'était le tout début d'être banger.
Tu penses à ça, en fait, au temps qui passe ou...
Ouais.
Ouais.
Ouais, de plus en plus maintenant, parce que encore une fois, j'ai 43 ans. Mais j'y pense avec, pas du tout avec nostalgie, hein, j'y pense avec, avec beaucoup de tu peux le voir, je suis quelqu'un d'assez posé. En fait, ce qui me rend heureux, c'est de voir un peu tout ce qu'on a réussi à faire, en fait. Réussir à créer, réussir à produire. Quand je me retourne, je vois mes bacs à disques et je dis, ah bah tiens, ça c'est ce qu'on a produit avec Edmonger. Ah tiens, ça j'ai collaboré à tel ou tel disque. Ah bah tiens, ça j'étais là pour faire ce featuring. L'histoire, en fait, en tout cas, je dis pas que tout le monde a besoin de ça, mais en tout cas, les gens qui font ce métier-là ont envie, en fait, d'une certaine façon, de laisser une trace, alors plus ou moins grosse, mais moi, c'est mon fantasme depuis tout le temps, c'est de laisser une petite ligne un peu dans cet univers musical qu'est la musique française. Et je me dis qu'on a commencé à écrire quelque chose d'assez joli depuis une vingtaine d'années.
Trop cool.
Voilà.
Eh ben, merci beaucoup.
T'as tout ce qu'il faut.
Pedro Winter, d'être venu sur Nouvelle École. Tu sais qu'en plus, j'ai oublié de te présenter au début. Normalement, je dis toujours.
C'est vrai, normalement. Alors, Nouvelle École, donc là, je vais être le numéro 98 ou 99?
Non, tu vas être le numéro 83, je crois, ou 2.
Ah, 82, c'est pas mal. C'était une belle. J'ai des copains qui vont sortir un.
À mon avis, tu vas plus être 83, 84.
Mais c'est très bien. 84, Michael Jackson, très bien. C'est moins les années 80.
Il se peut que tu sois 84.
Ok. Eh ben merci Nouvelle École.
Merci à toi.
C'était un plaisir. On aurait pu parler pendant des heures. Hein. C'est dangereux ton truc.
C'est le concept de ce truc. Ouais. Alors j'essaye de le cadrer un peu, mais moi je peux parler. Je peux vraiment parler pendant des heures.
J'espère que tout ce que j'ai dit ne sera pas retenu contre moi au tribunal.
Je pense pas. Où est-ce que qu'est-ce que les gens qui écoutent et qui veulent en savoir plus sur toi et ce que tu fais peuvent faire?
Eh ben, ils peuvent nous suivre sur Instagram @headbanger, écouter. Qu'est-ce qu'ils peuvent écouter? Bon, ils nous trouvent. Ils se démerdent.
Ouais. Hein,
ceux qui veulent en savoir un peu plus sur nous, vous vous démerdez. Vous savez où on est. Mais en tout cas, on a plein de choses excitantes. À vous proposer, les amis.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté Nouvelle École. Si l'épisode vous a plu, la première chose à faire est de le dire à l'invité via les réseaux sociaux. Vous trouverez le lien de ses profils dans la description de l'épisode. Faites-le, c'est très important pour les remercier et pour montrer que Nouvelle École est écoutée. Presque aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcasts ou iTunes. 5 étoiles de préférence, ça permet à Nouvelle École de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Il n'y a pas de pub sur Nouvelle École, c'est parce que Nouvelle École est financée par ses auditeurs sur patreon.com. Vous pouvez rejoindre cette communauté et soutenir Nouvelle École à partir de 2 euros par mois, soit un café par mois en allant sur patreon.com/nouvelle-école-podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Enfin, pour ne rien manquer des actualités et des coulisses, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Nouvelle École. Merci d'écouter ce podcast et à la semaine prochaine.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Think of your favorite one-hit wonder.
Or that overpriced toy your parents would never let you have.
Or that TV show that no one else remembers because it was canceled way too soon. Now what if we could fix it? I'm Francesca Ramsey.
And I'm DeLon Grant. And after 20 years of friendship, we are now hosting a new nostalgia podcast called Let Me Fix It.
Each episode, we'll dig into our favorite celebrities, shows, and brands of yesteryear, and then imagine what it would take to repackage them for relevance today.
Think of our show as an intervention, but with way less stakes.
So subscribe to Let Me Fix It wherever you get your favorite podcasts.